Jane Guimel, on est chapitre 19, Zman Birkat Tzitzit. D'accord ? Alors, il dit la chose suivante. Il dit Tzitzit, Chovat Gavrahu. Le Tzitzit est une obligation de la personne, Velo Chovat Mana, et ce n'est pas l'obligation du vêtement. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. Ça, c'est une question qu'on pose très souvent dans la Gemara. Est-ce qu'une mitzvah, donc ça dépend des mitzvot, est-ce que la mitzvah est l'obligation de l'objet ou la mitzvah est l'obligation de l'homme? Donc, par exemple, par rapport à la mitzvah du tzitzit, la question va se poser. Est-ce que c'est moi qui ai l'obligation de mettre les tzitzit sur le vêtement si je porte un vêtement à quatre coins? Ou bien, tout vêtement à quatre coins que j'ai dans ma maison doit avoir les tzitzit même si je ne le porte pas? Donc, je répète, est-ce que c'est une obligation de la personne? Donc, c'est moi, si je porte un vêtement à quatre coins, je devrais mettre les tzitzit. Ou bien, est-ce que c'est une obligation qui est liée à l'objet? Dans les mitzvot, on a différentes. Il y a des mitzvot qui sont attachées à l'objet, et il y a des mitzvot qui sont attachées à la personne. D'accord? Ça dépend. Il y a différentes mitzvot d'un côté et d'un autre. Alors, ce qui nous apprend ici le Shulchan Aruch, c'est que la mitzvah de Tzitzit est une mitzvah qui est liée à l'homme, et pas à l'objet. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est que si l'homme porte un vêtement à quatre coins, il doit porter les Tzitzit. Mais si dans mon armoire, j'ai 100 vêtements à quatre coins, Est-ce que je dois mettre le tzitzit dessus? Non. Pourquoi? Parce que le tzitzit, ce n'est pas la mitzvah de l'objet, c'est une mitzvah de l'homme. Alors si un jour vous venez à un cours de Gemara et vous entendez les définitions Gavra et Chevta, d'accord? Vous savez de quoi on parle? Gavra, c'est une obligation qui est liée à l'homme, et Chevta, c'est une obligation qui est liée à l'objet.
Par exemple à l'objet.
Par exemple à l'objet. Ben, par exemple, voilà, parce que dans l'exemple des tzitzit, si la mitzvah des tzitzit...
Non, un exemple concret, une mitzvah liée à l'objet.
C'est pas des. C'est les détails de mitzvah surtout.
Mais la maison, tu mets
oui, mais c'est parce que tu y habites.
Voilà.
C'est parce que tu y habites.
C'est pas
si j'ai des maisons, l'objet,
un exemple pour expliquer l'objet, tu as des tefillines devant toi. On dit que les tefillines sont kadosh en elles-mêmes, même si tu ne les portes pas. C'est-à-dire que des tefillines ne sont pas kadosh uniquement.
C'est l'objet de la mitzvah.
Oui, très bien, mais c'est-à-dire que l'objet a une kedusha en soi. L'objet est une kedusha en soi, et ça veut dire en soi c'est déjà une mitzvah. Tu comprends? Alors que.
En soi, c'est l'action dans les tefillines qui est une mitzvah, c'est pas l'objet.
La récolte, je
dois. La raison que c'est très rare de trouver des mitzvot.
Allô? Ouais. La récolte, je dois prélever même si j'en mange pas.
Bon, c'est pas. C'est...
Non, la récolte, je dois en prélever si elle est mangeable.
Oui, mais si je la mange pas.
Ça change pas.
Ça change pas. Donc là, ça va sur.
Sur l'objet,
ça. Bah oui.
C'est pas exactement.
Non, donc c'est pas si évident que ça.
Non, c'est pas évident du tout.
C'est pas évident du tout.
Oui,
donc dans les mots,
l'objet du jeu.
Pour être honnête, la majorité des mitzvot sont autour de l'homme, autour de l'homme qui va les accomplir. D'accord. Mais bon, c'est pour ça qu'on apprend pour tzitzit. On dit que tzitzit, chovat gavrahu, velo chovat mana. Le tzitzit, c'est une obligation, on en a dit, qui est liée à l'homme, et c'est pas une velo chovat mana, et c'est pas une obligation qui est liée mana, c'est en araméen, ça veut dire un vêtement. C'est pas une obligation donc, qui est liée à l'objet, qui est liée au vêtement. Chez Kolzman, chez Nolovesh et Talit, patour mititit. Tant que je ne porte pas le talit, d'accord, donc le vêtement à quatre coins, le vêtement est exempté de porter, de mettre les titit. Donc ça veut dire, on va prendre un exemple. Imaginez que vous vendez des vêtements. D'accord. Imaginez-vous que vous vendez des vêtements à quatre coins, mais qui n'ont pas les titit. Est-ce que ça pose problème de posséder ces vêtements? Ça pose pas problème. Si par exemple, vous allez commencer à vendre de la viande de chazir de cochon, là c'est un problème. Vendre de la viande de cochon, c'est un problème. Vendre quelque chose de taref, c'est un problème. Mais vendre des vêtements à quatre coins sans tzitzit, c'est pas un problème. Pourquoi? Puisque le problème n'est jamais autour du vêtement, le problème est autour de celui qui. De la personne qui va le porter.
La vaisselle a trempé.
Une autre question.
Ou
les fichar, c'est pas un problème. Ou les fichar, c'est pour ça. Et ne me varer à la siyat et tzitzit, chez mitzvah et la bilvi château. Il nous explique sur un aour, c'est intéressant. Il dit c'est pour ça que. On ne fait pas de bracha lorsqu'on met les tzitzit sur le vêtement. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, bon, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois. Quand on met les tzitzit sur le vêtement, on ne fait pas de bracha. Normalement, quand on fait normalement dans d'autres mitzvot, on fait, par exemple, quand on accroche une mezouza, on fait une bracha. Ah, on accroche la mezouza. Là, sur le tzitzit, on voit que lorsqu'on prépare le tzitzit, on ne fait pas de bracha. Pourquoi on ne fait pas de bracha? Explique le Shulchan Aruch, puisque la mitzvah n'est pas autour de l'objet, mais la mitzvah est autour de l'homme. Donc c'est pour ça qu'à quel moment tu peux faire la bracha? Tu peux faire la bracha seulement lorsque l'homme va porter le vêtement. Là, tu fais la bracha, parce que c'est là que la mitzvah démarre. La mitzvah est une mitzvah qui est liée autour de l'homme et pas autour de l'objet. Peut-être tu vas nous trouver un meilleur mot en français, une meilleure définition. Autour de l'homme, autour de l'objet. Il y a une définition en français qui.
Hmm,
ah, il doit avoir une définition. Dans le juridique, il n'y a pas des. Hein? Il y a deux.
Ça, c'est entre deux personnes.
Est-ce que dans le chez les avocats, on n'a pas des. L'obligation liée à l'homme, liée à l'objet.
Le statut. Non, t'as lié à la personne et lié à la chose.
Ah, lié à la chose, on appelle ça? Comme quoi, par exemple, dans un exemple. Un exemple dans le juridique.
Une obligation personnelle, voilà, sur comme une caution, c'est une obligation personnelle, et une hypothèque, c'est une obligation sur une chose, sur un bien immobilier.
Donc on est à la chose, on dirait, on appelle ça lié à la chose.
Oui.
Eh bien.
La chose ou l'action.
Ok. Alors, à Satalit, les Tzorer Tachirin. Donc à la Chabetz. Donc à la Chabetz, d'accord. Nous dit aussi. Bon, alors en passant, je vous explique qu'il y a l'oral le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, il dit que c'est le même principe quand on fabrique des mezouzas ou des tefillin, que on peut faire la bracha sur la mezouza qu'on installe dans la maison seulement quand on rentre à la maison pour s'installer, pour s'y installer, pour habiter. C'est-à-dire, imaginez-vous que vous achetez une maison et que vous n'allez pas y habiter tout de suite, d'accord. Mais ce que nous dit le Shulchan Aruch, c'est que quand on met la mezouza, il faut rentrer dans la maison, il faut rester quelques temps dans la maison. Alors, je ne sais pas si on va dormir, mais au moins, il faut profiter un petit peu de la maison. Puisque rappelez-vous que la mezouza est également une mitzvah qui est liée à l'homme et non pas à l'objet. Donc si j'ai posé la mezouza sur la maison, mais je ne profite pas de la maison, ça pose problème. Donc il faut commencer à profiter de la maison pour qu'on puisse dire que la mitzvah de mezouza est une mitzvah qui est liée à l'homme et non pas à l'objet.
Là,
Alors, bonne question. Le titit, la mise de la Torah, c'est que si on a un vêtement à quatre coins, il doit avoir le titit. Si j'ai pas de vêtement à quatre coins, je n'ai pas l'obligation d'avoir le titit. Est-ce qu'on est obligé?
Oui.
Non. On est obligé que sur le talit gadol pour la prière, pour le grand talit. D'accord. Ça, les chachamim m'ont instauré, c'est un vêtement de prière. Mais ça, c'est dans le cadre de la prière. Ils ont instauré ça dans le cadre de la prière. Mais dans le cadre de la mitzvah de titit, si je n'ai pas de vêtements à quatre coins, je n'ai pas l'obligation de mettre les titit. L'obligation est si j'ai un vêtement à quatre coins, je dois mettre les titit.
Le titit
katan, c'est pas une obligation. Mais c'est une manière de rajouter des mitzvot, d'avoir constamment une mitzvah sur soi. On a plusieurs mitzvot qui sont constamment sur soi. D'accord. Comme la mila, par exemple. Mais le titit, on a la chance, ça veut dire on n'est pas obligé. Celui qui ne porte pas le titit ne fait pas d'avera. D'accord. Et si un jour ça vous arrive de ne pas avoir de titit, de talit, et vous avez que les tefilines, vous mettez les tefilines, parce qu'il n'y a pas d'avéra, c'est évident qu'il n'y a pas d'avéra. Mais, si on peut rajouter une mitzvah, pourquoi pas? C'est pas seulement rajouter une mitzvah, c'est avoir une mitzvah constamment sur soi. Surtout que dans la troisième paracha du schéma, on dit que le titit, c'est une tségoula pour la crainte de Dieu, pour se rappeler constamment qu'il y a Kadosh Baruch Hu, pour nous aider à ne pas faire des avérot. Alors non seulement c'est une mitzvah, en plus c'est une tségoula, pourquoi pas. Mais c'est pas obligé. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui portait pas le titit, ne lui dites pas c'est assourd. Tu peux lui dire j'ai un bon plan pour toi, mais ne lui dis pas c'est assourd. C'est un bon plan. D'accord. Voilà, que ce soit clair. Mais c'est un très bon plan.
C'est un bon plan. Un bon investissement.
7,
7, 8, 8. Good deal, ouais. Non, rassurez-vous, c'est un très bon plan et je le porte tous les jours.
Bon entendu.
À Satalit, les Tzorer, donc à la Chabetz. Deuxième halakha. À Satalit, les Tzorer Tachirin. Bon, je ne sais pas si ça existe ça aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des gens qui préparaient leur. Comment on appelle ça? Le vêtement dans lequel on enterre une personne. Un linceul. Donc il y a des gens qui préparaient de leur vivant.
Leur propre linceul.
Et c'est possible qu'il a quatre coins.
Et une poche. Il faut les couper.
Alors bon, ça, honnêtement, c'est une réalité. Je n'arrive pas à comprendre comment il faisait ça, mais bon, je vais vous lire quand même. À Satalit, encore une fois, le Shulchan Aruch parle d'une réalité qui existait à l'époque, donc il devait bien en parler. À Satalit, les Tzorer Tachirin. Si une personne a préparé un talit, les Tzorer Tachirin, ça veut dire pour le linceul. Afalpi chez le Fsholi Famim Bechayav, même s'il le porte de temps en temps pendant sa vie. Pourquoi il le porte de temps en temps pendant sa vie? Il y a des commentaires qui expliquent.
Non,
écoutez bien. Il y a des commentaires qui expliquent. Ils expliquent ça autour de la Gemara, la Gemara Brachot. Gemara Brachot, elle dit que lorsqu'une personne voit qu'il n'arrive pas à convaincre son Yetzer Hara, il faut qu'il se souvienne de qu'il voit, il a essayé de convaincre, de casser son Yetzer Hara, il n'arrive pas à le convaincre. C'est écrit là-bas, Iskor la Tzmo Yamamita, il faut qu'il se souvienne du jour de la mort. Il y avait des gens à l'époque, pour se souvenir du jour de la mort, ils se mettaient à porter les vêtements de mort pour se mettre dans l'ambiance. Bon, encore une fois, c'est des réalités qu'on n'a plus aujourd'hui.
C'est
gore. Ouais, c'est un peu dur, vérité, ouais. Et bon, je vous ai prévenu, hein.
Hein. Il y en a même qui dorment dans leur cercueil.
Il y en a qui dorment dans leur cercueil.
Dracula en particulier. Ouais. Bon, continue.
C'est pas chez
ils
nous,
sont
ça.
Pas forcément juifs.
C'est pas chez nous, ça.
Ils vendent des cercueils aux enchères sur eBay, maintenant.
Avec des matelas très moelleux.
Donc, Asa Talit. Les Tzorer Tachrin. Alors oui, l'année dernière, il y avait un scandale, puisque, vous savez, en Amérique, il y a des sites de bons deals, de bonnes affaires. Et il y a une grande chaîne de supermarchés aux États-Unis qui s'appelle Walmart. Et l'année dernière, ils ont fait, apparemment c'était une erreur, enfin, je ne sais pas si c'était une erreur ou si c'était pour faire de la pub, on ne peut jamais savoir avec eux. Ils ont fait des soldes sur les cercueils, 5-50%. Et ça a fait un, bon, c'est pas un scandale, mais bon, les gens en ont parlé, quoi, parce que...
Ils en ont acheté aussi.
À 7, ça je ne sais pas. Asat talit les tzorer tachrin. Donc si une personne a fait un talit, je relis, les tzorer tachrin pour donc pour son comment dire un linceul vous m'avez dit. Afal pish elofsho lifamim bechayav, même s'il le porte de temps en temps dans sa vie, donc on lui a donné un cas de figure, pourquoi il le porterait? Patour, il est quitte de titit. Pourquoi? Puisque on a l'obligation de porter les titit seulement sur un vêtement qui est dédié au vivant. D'accord? Mais pas sur un vêtement qui est lié au mort. En passant, puisqu'on parle de ça, vous savez que lorsqu'on rentre au cimetière, si on a le talit de katan, il faut cacher les titites. Pourquoi? Ça, on verra plus loin que c'est ce qu'on appelle l'oeg l'arrache. L'oeg l'arrache, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se moquer du pauvre. C'est quoi le pauvre? C'est-à-dire quand une personne ne peut pas faire quelque chose, et toi tu lui montres, d'accord? C'est comme si on est pendant un jour de jeûne et t'as quelqu'un qui vient manger un bon sandwich devant toi. Ça s'appelle se moquer d'une personne qui est pauvre par rapport à cette chose-là. Donc on considère que les gens qui sont au cimetière, ils ne peuvent pas porter la mitzvah du titit. Ils ne peuvent pas mettre les titites. Donc c'est un peu comme une moquerie, on en, tu vois, moi je porte les titres, tu les as pas.
Rien.
Par respect, bon. C'est une autre question. Là. C'est une grande question que la Gemara pose dans le traité Sanhedrin. Est-ce que les halakhot de Avelut, est-ce que les lois de deuil ont été instaurées pour les vivants et pour les morts? Voilà, hier c'était Yom HaZikaron. Est-ce que les lois de deuil ont été instaurées pour le défunt ou pour les vivants qui sont restés? C'est une grande question, c'est une très grande question ça.
Un peu les deux, non?
D'accord. Alors, y a, dans la Gemara là-bas, elle amène des preuves dans tous les sens. Et la conclusion, c'est que c'est pour le par respect pour les morts. C'est-à-dire qu'il y a un certain. C'est-à-dire que les morts sont conscients de ce qu'on est en train de faire. Et dans le monde de la vérité, on leur amène quelque chose. Mais c'est une grande marloquette dans laquelle on a, je crois qu'on a pratiquement tous les sages qui étaient mêlés à cette marloquette. Dans tous les sens.
Beaucoup de pages.
Ah, bien sûr. C'est énorme. Et c'est une grande question, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que des gens qui vont dire oui, on fait ça pour nous, pour se sentir bien, pour se calmer du fait qu'on a perdu quelqu'un. Et là-bas, la conclusion de la Gemara, c'est que c'est pas comme ça. Passe à la page suivante. Siman Chav, chapitre 20. Dine le kichat umchirat talit. Donc là, on va parler des lois qui sont liées à l'achat d'un talit. À l'achat d'un talit. Donc imaginez-vous que j'achète un talit. Aujourd'hui, cette question ne se pose pas vraiment, puisque aujourd'hui, dans le talit que vous achetez, normalement, il y a une sorte d'ashgaha, d'accord? Donc, il y a toujours un papier attaché au talit, normalement. Hein, le plus grand fabricant de talit, c'est Talitania. Et bon, Talitania, tous les talits qu'il fait sont avec une ashgaha. Donc, normalement, dans la majorité, c'est pratiquement sûr, si vous ne l'avez pas acheté au marché, votre talit, le talit que vous avez, il a une ashgaha dessus. Il a une ashgaha, ça veut dire qu'il y a un tampon en arabin qui certifie que les titites ont été posées en bonne et due forme. Parce que rappelez-vous ce qu'on avait expliqué avant, il y a des lois qui sont liées autour de la pose des titites. Il faut que ce soit fait pour le titite et pas par n'importe qui, avec une cavana particulière. Il y a des lois autour de ça. Et il faut s'assurer que ce n'est pas made in China. Donc il y a une ashgaha.
Même les contrefaçons.
Il y a une ashgaha. Oui.
Oui.
Oui. Oui. Moi aussi, souvent je les achète comme ça. Parce que c'est bien de les faire soi-même. Mais bon, on va dire que la majorité des gens ne le font pas. Ou ne savent pas le faire, ou ne le font pas. Ça prend du temps. Alors, non, en Israël, c'est les... Comment on appelle ça? C'est les...
Thaïlandais.
C'est les Thaïlandais, ouais.
C'est un juif
qui le fasse? Oui. Alors après, il y a différentes marloquettes. Si c'est une machine qui le fait, mais il y a un juif qui est là en train de superviser, bon, enfin ça c'est d'autres nuances, mais il faut qu'il y ait un juif qui supervise. Faut que... Quand vous avez une ashgaha, non, c'est pas forcément qu'il fait à la main, c'est écrit.
Déjà prêts, ils sont faits souvent la main.
Pas forcément. Mais bon, s'il y a une ashgaha, d'accord, ça veut dire que c'est certifié par un rabbin. Maintenant après, il y a différentes, c'est comme toujours, ça veut dire qu'il y a des rabbins qui vont, moi par exemple, quand j'achète un talit, je fais attention que le talit a été fait à la main. D'accord, que les titres ont été mis à la main. Mais c'est écrit clairement à Avodat Yad. Il y en a certains que je n'ai pas écrit. C'est beaucoup plus cher, oui.
Oh, c'est 20%.
Non, c'est plus que 20%. Beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher parce que en général, ils le font par, c'est fait par des élèves de Yeshiva. Ils font ça entre midi et deux. Et c'est un bon, c'est avec ça qu'ils se font leur, leur argent de poche. Moi, quand j'étais à l'Yeshiva, souvent on en faisait. Alors, on y va. Donc, Alokear Talit Metsuyetset. Donc, cette halakha qu'on va expliquer, a priori aujourd'hui, n'est plus vraiment d'actualité, puisqu'aujourd'hui, on a une Ashgacha dessus. Mais bon, c'est pas forcément qu'il y a une Ashgacha. Peut-être je peux acheter d'un juif qui me vend son Ashgacha. Donc, Alokear Talit Metsuyetset Mi-Israël. Une personne qui achète un Talit, Metsuyetset, ça veut dire avec les titites déjà apposés dessus, Mi-Israël, d'un juif, O Mitagar et No Yehudi. Ou bien, d'un commerçant non-juif, entre parenthèses, Veomer chez les Kachan Misraël Neeman, mais qui nous dit, vous inquiétez pas, je les ai achetés d'un juif de confiance. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux ou je peux pas? Est-ce que c'est kachar ou c'est pas kachar? Qu'est-ce qu'il nous dit, Shulchan Aruch? Kachar, c'est kachar. Pourquoi? Même si c'est un commerçant non-juif, mais qui me certifie, qui me dit, sur parole, que ça a été acheté chez un commerçant juif, c'est kachar. Pourquoi? Des Kevan, donc si c'est un juif, c'est évident que c'est kachar, parce qu'un juif, on lui fait confiance. Ça, c'est sûr. D'accord? Un juif, il a une présomption de cacheroute, il a une présomption d'être cachère, donc il te dit quelque chose, tu le crois. Tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, il est cachère. Je ne sais pas si c'est comme ça dans le droit. C'est comme ça dans le droit, présomption de cacheroute?
Non, ça dépend du...
Alors, dans la Torah, tant qu'on n'a pas prouvé que la personne n'est pas cachère, elle est cachère.
Et...
Des domaines où t'as
d'accord très bien.
À l'américaine.
Maintenant, ce que le chidouche, la nouveauté du Shulchan Aruch ici, c'est que même si je l'achète d'un commerçant non-juif, qui me dit que je les achète chez un juif, c'est cachère. Pourquoi? Des Kevan des Tagarou, puisque c'est un commerçant, et qui dit commerçant, dit que c'est son affaire, d'accord, et que un commerçant est réfléchi à long terme. Il ne va pas se mettre à faire une bêtise, un commerçant est réfléchi à long terme.
C'est plus vrai aujourd'hui. Hein.
Ah bon? Depuis, ça s'est arrêté en...
Khazaka, aujourd'hui on fait des gros coups, on s'en va.
Et on refait un coup à côté.
Donc Khazaka chez le Kacham Israël. Delo Mara Nafshe. D'accord? Alors, c'est une présomption qu'il a acheté vraiment d'un juif. Pourquoi? Delo Mara Nafshe, parce qu'il ne va pas se faire du mal. Il ne va pas se faire du mal à son affaire. Alors, écoutez bien ce qu'il dit le Magan Avraham, c'est très important à comprendre. On va rejoindre ce qu'il dit Léo. Léo, il dit que pourquoi dans ce cas-là on fait confiance au non-juif? Bien qu'il a raison, a priori, on peut avoir un non-juif qui a développé une affaire et qui se dit, bon, bah, je tire ce qui est attiré, et après... Dès que c'est fini, bah tant pis, je m'en vais. Il explique, il dit que pourquoi on fait confiance dans au goy, particulièrement dans ce cas-là, puisqu'on considère que le goy ne sait pas faire le titit.
Il
ne
l'a pas fabriqué.
D'accord.
Il ne connaît pas la Chine encore.
Il ne connaît pas. Voilà. Juste dans les mots. Il dit que que les non-juifs ne savent pas le faire puisqu'ils ne le posent pas sur leurs vêtements. Donc ils n'ont pas de raison d'apprendre à le faire. Donc puisqu'on pense que par défaut ils ne savent pas le faire, donc on se dit, bon, normalement il ne sait pas le faire. Bon, peut-être qu'il a appris, mais normalement il ne sait pas le faire. Donc, s'il me dit qu'il a acheté un juif, je le crois. Mais nous dit le Magan Avraham, d'accord, si ce ne serait pas le cas, si ce serait quelque chose que les goyim portent aussi, c'est évident qu'on ne fait pas confiance. Et comme ce qu'il dit M. Bismuth, il y a eu un scandale cette année en Israël. Il y a eu des matzot d'un rav, le rav de Migdal HaEmek. Il a rendu pasoul toutes ses matzot 2 semaines avant Pessah. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, on pense que c'est des Arabes, d'accord, qui ont contrefait ces matzot, et ils ont diffusé dans tout Israël. Donc du coup, il a envoyé une lettre où il pouvait, dans tout Israël, dans les journaux, etc., pour dire, ne mangez pas mes matzot à Pessah.
N'en possédez pas, même.
Ne mangez
pas. Seulement moi, mais pas en possédez.
Oui. Bon, encore une fois, si on considère que c'est quelque chose que les goyim savent faire, dans ce cas-là, on ne leur fait pas confiance. Voilà.
Ou ne veulent pas faire. Ne...
Bon, donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'aujourd'hui on a bon.
Ah, mais il y a un gros intérêt maintenant, hein, là-dedans.
Même là-dedans, c'est-à-dire même dans les matzot. Ah oui, il y a de l'argent à faire.
Je comprends pas. Il y a quand même la fabrication de la matza, il y a quand même un chiffre, il y a la distribution, il y a beaucoup de choses. Je sais pas, les commerçants, ils ont un réseau de distribution, ils ont réussi à...
C'est un fait, voilà.
Bah, c'est un fait, ça s'est passé. D'après ce que j'ai compris, ils ont vendu surtout aux épiciers, aux petits trucs, tu comprends, aux petites chaînes, qui ne posent pas de questions, tu vois. Bon, il vient, tu lui proposes moins cher, il prend, il ne pose pas de questions.
C'est rentable, parce qu'il y a un gros collègue là-dessus, donc...
Ça, c'est pas dit. Bon, alors. Aval, imlakar, meno yehudi shen tagar, psula. Si, n'a pas. Tant que vous n'avez pas ouvert votre usine de matzah, ne parlez pas. Voilà. Toi, tu fais pas ça, s'il vous plaît.
Mais non, pour faire des fausses. Toi, tu fais pas
de facile. Ah bah. Hein,
pour faire des fausses, tu t'en.
Ah, faire des fausses, là, oui, d'accord. Ah, oui. Il y a un très gros coef. Voilà.
Bah oui. Attends, hein,
j'ai cru que vous voulez taper sur le prix des mazotes. Désolé. Merci là.
Moi, j'ai déjà fait.
Ah, parce que je vous connais, c'est pour ça.
Comme quoi
il faut pas juger, exactement. Voilà, on a parlé du Lashon Hara Shabbat, voilà, comme quoi il faut pas. Désolé, mais là. Aval me im la karmen me yehudi shenotagar psula. Mais s'il a acheté les titites d'un non-juif qui n'est pas commerçant, donc qui n'a pas d'affaires, dans ce cas-là, pasoul, c'est pasoul. Donc les titites, on les achète chez un juif. Alors a priori, comme je l'ai dit, aujourd'hui la question ne se pose pas, puisqu'aujourd'hui on a un tampon, d'accord ? Et qu'aujourd'hui on peut très facilement remonter à la source, donc c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais il faut quand même faire attention, donc de préférence, n'achetez pas ça au marché, n'importe où, achetez ça dans des magasins, cachers, de juifs, etc. Et pas besoin que le juif soit religieux. On part de la base que si c'est un juif, on lui fait confiance. On part de la base qu'un juif ne joue pas avec les mitzvot. Bon, j'espère que c'est encore valable aujourd'hui. Bon, le Shroanour n'a pas changé. Tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, on fait confiance. Je passe à la Rabet, troisième ligne. En mochim talit mitsuyetset leovet kochavim. Ah, ça c'est une halakha très spéciale. Une halakha très spéciale qu'il faut comprendre. Il dit comme ça. Il dit qu'on n'a pas le droit de vendre un talit avec les titites, leovet kochavim, à un non-juif. Pourquoi ? Shema itlavei misrael baderer, de peur qu'il va accompagner un juif en chemin avec ce talit. Il va se faire passer pour un juif. Veyargé nous et il va le tuer.
Ça va loin, ça.
Ah, ça va très loin. Ouais. Ça, je vous ai dit. C'est une arrache qui va très loin. Ouais. Ça m'a fait penser à quoi ? Ça m'a fait penser à la semaine dernière, j'étais chez un épicier. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez me vendre une kippa ? Un épicier arabe. Alors, comme je venais d'apprendre cette halakha, bon, c'est pas la même chose. D'accord ? Alors, dans la réalité de l'époque. Oui, une kippa. Il m'a dit, je dois aller à un mariage juif. Je sais pas ce qu'il m'a raconté comme baratin. Bon, il m'a dit, il me faut une kippa. Bon, je lui ai dit, écoutez, vous allez à 19e rue Manin, vous achetez Moi, je vous donne pas. Je ne lui ai pas dit ça, mais je lui ai donné l'adresse. Bon, le fils à moi m'a dit que c'est pour aller à un mariage, etc. Bon, on va dire qu'on le croit. Alors, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'on ne vend pas un talit avec l'étiquette déjà fait à un non-juif. Pourquoi ? Alors, attention, ici, c'est pas écrit non-juif. D'accord ? C'est pas écrit non-juif. Est-ce que vous remarquez la différence ? Vous remarquez que dans la halakha Aleph, quand on parlait d'un non-juif, comment on a appelé un non-juif ? D'accord ? Dans la halakha Aleph. Prenez la fin de la première ligne. Eno Yehudi. C'est quoi Eno Yehudi ? Non juif. Très bien. Maintenant, reprenez la quatrième ligne. En Mochin Talit Mitsuyetset. De quoi on parle là, quatrième ligne ? Rovet Kochavim. Un idolâtre. Vous voyez, c'est pas la même chose. D'accord ? Rovet Kochavim, un idolâtre. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on considère que les idolâtres de l'époque, dès qu'ils avaient l'occasion de faire de causer du tort à un juif, ils le faisaient. C'était évident.
C'est pas les premiers avec les chrétiens. Non, pas les chrétiens,
parce que c'est pas Ovet Kochavim. Non. Ovet Kochavim, voilà, c'est ça. Là, vous avez bien vu, le Shulchan Aruch a fait la différence. Eno Yehudi, dans la première halakha, et Ovet Kochavim. Il y a la confiance qu'on accorde à un juif, c'est une chose, mais on n'a pas le droit, c'est interdit de vendre un titite, un idolâtre. Pourquoi ? On a expliqué ici, de peur qu'il va accompagner un juif dans le chemin, veillez à Argenou qui va le tuer. D'accord ? Il y a encore un autre cas que ramène la Gemara, et c'est intéressant que le Shulchan Aruch ne le ramène pas. Il dit que les idolâtres à l'époque, c'était très fréquent qu'ils faisaient deux avérotes. Deux avérotes, c'était très fréquent, qui étaient très fréquentes chez eux. Premièrement, Shfichut Damim, c'est-à-dire c'était des gens qui pouvaient tuer très facilement, ils avaient la gâchette facile, d'accord ? Et deuxièmement, c'était des gens qui commettaient beaucoup l'adultère. Tim Subismut. C'est des gens qui commettaient beaucoup l'adultère. Donc on a deux risques. Non, parce qu'on en a parlé. On a deux risques ici. Premier risque qu'on a, c'est que je donne le talit à ce juif-là, à ce non-juif, donc à cet idolâtre. Il y a un risque, d'accord, qui va mettre ce vêtement-là et qui va se faire passer pour un juif et qui va tuer. C'est le premier risque qu'il y avait à l'époque. Deuxième risque qu'il y a aujourd'hui, deuxième risque qu'il y avait à l'époque, c'était que ce non-juif va aller voir une femme prostituée. Et il va lui donner en cadeau, donc en paiement, le talit. Et après, la femme prostituée va dire, oui, il y a un juif qui est venu, regardez, il y a le talit. C'était des risques qu'il y avait à l'époque. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver...
En paiement, il donne un talit.
Un vêtement, hein ?
Oui, elle va faire le chemin.
Ah oui ? Il y a une histoire dans la Torah. Il y a une histoire dans la Torah, comme ça. Bah, je vais pas vous le dire. Hein ? Aujourd'hui, maintenant pour être honnête, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une personne qui est réellement Ovet Kohanim, qui est réellement idolâtre. Je vais expliquer ce que je veux dire. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez, je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, on avait posé la question au Rav, parce qu'on allait, on allait dans les magasins pour demander à ce qu'ils étaient juifs ou pas. Donc on allait le vendredi dans les magasins pour demander aux gens ce qu'ils étaient juifs ou pas. Et on leur proposait, aux alentours de Hanouka, on leur proposait la Hanoukia. Et le problème qu'on avait, c'est que lorsque c'était un juif, donc on lui disait joyeux Hanouka, on lui donnait une Hanoukia, etc., on lui expliquait. Mais lorsque c'était un non-juif, tu veux bien lui souhaiter quelque chose. Et à l'époque où j'étais aux États-Unis, c'était en 2005, c'était l'équivalent de Noël. Hanouka et Noël tombaient à peu près en même temps. Donc j'ai demandé au Rav, à mon Rav, donc au Rosh Kollel où j'étais, je lui ai dit, est-ce que si c'est un non-juif, je peux lui dire bonne fête, ou joyeux Noël, est-ce que j'ai le droit? Alors il m'a dit, bon, joyeux Noël, ne lui dis pas, il n'y a plus que je passe, il dit là-bas, d'accord? Mais bonne fête, tu peux lui dire. Il m'a expliqué la chose suivante, il m'a dit qu'aujourd'hui, toutes ces fêtes sont devenues commerciales. Toutes les fêtes, etc., même si, à la base, c'est des fêtes qui sont vraiment idolâtres, d'accord? C'est des fêtes religieuses. Mais aujourd'hui, toutes ces fêtes-là, aujourd'hui, elles ont perdu le côté religieux. Donc il m'a expliqué, tu peux dire bonne fête sans problème, c'est ce que j'ai fait. Pardon? Ah oui. Voilà, mais justement, mais il faut trouver des vrais chrétiens aujourd'hui.
Les adventistes du 7e jour,
c'est pas simple à trouver. D'accord? C'est pas simple à trouver. Et en plus, aujourd'hui, les Ovdé Kohavim, donc aujourd'hui, même les idolâtres, ne sont plus suspects sur ces deux choses-là. L'adultère, j'en sais rien, avec l'actualité, mais... C'est la... Actualité avec le pape, là.
Ah oui, c'est pas l'adultère, c'est pire.
Ça j'ai dit l'adultère, je sais pas, mais bon, le meurtre, normalement ils sont pas suspects sur ça. Alors, je continue dans les mots. Afilou les mashken ou les afki talit mitsuyetset lovet kochavim asuron. Et on est parti tellement loin à l'époque, on a dit que même donner en gage un talit à un non-juif, c'est-à-dire j'emprunte de l'argent, pardon, à un idolâtre. Et je lui dis bon, j'ai pas de code, il me dit il me faut un gage. Je lui dis bon, je suis un non-talit, de toute façon je compte le reprendre. C'est asuron. Et la imken ou les ficha, des lekalimichashlea, sauf si on sait que c'est vraiment pour quelques instants, que là il n'y a rien à craindre. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est quelque chose sur lequel on faisait très attention. A priori, comme je vous ai dit, les mefarchim me disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce problème. Aujourd'hui, on ne fait plus attention à ça, puisqu'aujourd'hui, les idolâtres ne sont plus suspects sur ça. D'accord ? Il ne faut pas oublier que c'était à l'époque des croisades, etc. On est passé par beaucoup de choses, donc on avait peur. Aujourd'hui, on n'a plus ces problèmes-là, donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire attention à ça. Je fais la halakha aleph, on s'arrêtera ici. Donc dans le prochain siman, chapitre 21, on va nous dire Kedat Malasot Betitit Shinifsekou Betalitot Ishanim. C'est un cas très fréquent dans les synagogues. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les titites qui ont été arrachés? D'accord? On a un titite, il a été arraché. Un morceau de titite qui a été arraché. Voilà. Ouais. Des longs titites, on a tous des longs titites, un morceau qui est arraché. Qu'est-ce que je fais avec ce morceau? Et qu'est-ce que je fais aussi avec un vieux talit qu'on ne peut plus porter? Ça y est, on a tiré, et c'est fini. Maintenant, et...
D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors on va voir. Routé titit chez Nipsekou. Regardez. Routé titit chez Nipsekou. Donc des fils de titit qui ont été arrachés. Et ça c'est un cas très fréquent parce que même si le titre reste cachère, on peut avoir des morceaux de titit qui se coupent. C'est un cas fréquent avec les chaises, avec ce que vous voulez. J'en ai trouvé plein de fois ici, j'en ai déjà des morceaux de titit. Alors, routé titit chez Nipsekou, yachol les arcanes lâchent pas. Des fils de titite qui ont été arrachés, on peut les jeter à la poubelle. Pourquoi? Peu. Pourquoi? Mipne chez mitzvah, chez en begoufak doucha. Puisque c'est une mitzvah, d'accord? Alors je vous traduis littéralement. C'est une mitzvah, d'accord? Des lots, donc des lots chez en begoufak doucha, dans lequel, dans le fil de titite, dans le corps du fil, d'accord? Dans l'objet, il n'y a pas de doucha. D'accord? On va expliquer. Alors, explique quand même le Mishnah Berurah, je vous dis à l'oral. Mishnah Berurah, il dit qu'on n'a pas le droit de l'utiliser pour quelque chose de dégoûtant. Par exemple, j'ai pas le droit de l'utiliser comme voilà, pour laver le sol. Ça, c'est pas joli. D'accord? Mais le jeter à la poubelle, j'ai le droit. Aval, Kozman, Shem, Gvouim, Batalit, mais tant qu'ils sont attachés au Talit, Assur, Lishtamesh, Baem. On n'a pas le droit de s'en servir. D'accord? C'est-à-dire quoi s'en servir? Kegon, Likshor, Baem, Shundava. Par exemple, attaché avec le Talit quelque chose. Vechayotse basé, et un autre cas, Mishum bisou mitzvah, puisque c'est une honte à la mitzvah. Je me rappelle quand j'étais enfant, des fois on s'amusait, on attachait les fils de titite à la chaise. Ça dès que la personne allait se lever.
Deux personnes entrées.
Voilà, on commence à connaître.
Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit c'est assourd. Il dit pourquoi c'est assourd. Justement, c'est pour cette halakha. C'est que mise, t'as pas le droit d'utiliser le télétitit pour faire une blague à quelqu'un. C'est ce qu'il dit ici. On n'a pas le droit de s'en servir. C'est comme les bougies de Hanouka. Assourd les shtamesh baem. T'as pas le droit de t'en servir pour une autre utilisation que l'utilisation des bougies de Hanouka. Pardon ?
Pour l'anniversaire.
Oui. Non, non, les bougies quand elles sont allumées. Les bougies quand elles sont allumées, on n'a pas le droit de s'en servir. Quoi, ils vendent ça comme bougie d'anniversaire maintenant ? Ah, c'est le reste. Ouais, c'est vrai, c'est de couleur, pourquoi pas. Ouais.
Ah.
Alors.
Puis on balance des positions sur le gâteau.
Bon, mais là, on finit la halakha. Non, mais il a raison. C'est même si, bon, d'abord, on évite les bougies, et même si vous mettez les bougies, il ne faut pas souffler dessus. Comme il a dit, parce que dans le judaïsme en général, tout ce qui est flamme, la flamme, ça représente la neshama, ça représente la vie. C'est pour ça que lorsqu'une personne est décédée, on allume toujours des bougies à côté. Ça représente la vie. Et souffler, c'est pas bon. Donc en général, ce qu'on fait, c'est soit on étouffe la flamme, ou soit on avec une assiette, voilà, d'accord, mais pas souffler. Bon, mais ça, c'est encore une autre chose. Alors. Donc le kayotse basé mishum bizouy mitzvah. Veya shomrim. Allez, venez mission finie, comme ça après, si vous voulez on discute après. Veya shomrim, il y en a qui disent. De af lachar shenipseku, en inog. Je suis dans les petites lettres. De af lachar shenipseku, en inog ba'em minhag bizayon. Que même une fois qu'ils ont été coupés, et là on va revenir à ce que M. Bishmit a dit. Que même une fois qu'ils ont été coupés, on n'a pas le droit de les jeter à la poubelle. Il y en a qui disent que. Ok, on va pas aller nettoyer le sol avec, mais même le jeter à la poubelle, c'est un manque de respect. Alors c'est vrai que théoriquement c'est permis. Pourquoi c'est permis ? Parce que dans le fil du titit, il n'y a pas de kdoucha. Théoriquement c'est permis. Le talit, il a une kdoucha, ça on verra après. Mais le fil du titit, lui, n'a pas de kdoucha. Donc c'est vrai que c'est permis, mais il nous dit qu'il y en a qui disent que ça se fait pas. Donc on ne jette pas à la poubelle, c'est pas poli, c'est une honte pour le titit. Et là seulement, chez Namsakrim Gnisa. Sauf que, ils n'ont pas besoin, on n'a pas besoin de les mettre à la Gnisa. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ? On me dit, alors qu'est-ce que je fais avec ? Alors veillez, je mets avec des kim les gonzam. Donc il dit, il y en a qui essayent d'être marmir, les gonzam, de les mettre à la gnisa. J'ai vu d'autres personnes aussi que quand le fil est assez long, pardon, ils l'utilisent comme marque-page. Ça c'est cachère, au contraire, c'est un cavote pour le titit. On montre qu'on a recyclé le fil du titit et qu'on continue à l'utiliser. Pour le livre, oui.
Pour des livres de Torah.
Oh, ça va de soi. Franck, on n'a que des livres de Torah. Va marmir ou medagdeg be mitzvot. Et ça, c'est intéressant que Shranov nous dit ça. Il nous dit que de manière générale, celui qui est marmir, celui qui cherche la chumra, et qui cherche à bien faire, qui cherche à être pointilleux dans les mitzvot, t'avo à la bracha, que la bracha vienne sur lui.
Excuse-moi, elle me dit, sans être marmir, moi, ce qu'on m'a dit, et c'est ce que je fais, je décide de mettre à la Knita,
oui.
Le talit en lui-même, je le mets dans un sac que je peux mettre à la poubelle.
On verra après. Le vêtement, on n'en a pas parlé. On verra la semaine prochaine. Là, on a parlé du fil. D'accord ? Sachez que c'est pas assourd. Il sera là si tu veux.
Le Rav Ben, il disait que les bouts de titit, on pouvait faire des mèches avec quand on allume les...
Oui. Tant qu'il n'y a pas de honte. Tant qu'il n'y a pas... Bien sûr. Voilà, il y a encore une autre idée qu'il a donnée. C'est quoi, c'est dans le kitsour du Rav Ben ? Il a une autre idée, il dit c'est de faire quoi ? C'est de les mèches de Hanouka, bien sûr. Tant que c'est pas une honte, tout le monde est d'accord que c'est cachère. C'est pas obligé de mettre à la Gnisa. D'accord ? Mais tant qu'on fait pas honte, c'est bon. On est obligé de... Expliquez votre question, ça veut dire, la question est posée par rapport au talit Gadol ? Oui, j'ai compris, mais pourquoi vous posez la question ? Puisque le tout est facile.
Parce que ça veut dire qu'on fait deux fois la bracha.
Il y a beaucoup de sfaradim qui ne font pas. Qui ne font pas la bracha sur le talit Katan. Et ils rentrent quitte le talit Katan avec la bracha du talit Gadol.
On l'a vu, voilà. Ça.
Ouais, on l'a vu. Chez les Ashkenazim, la majorité dit le contraire. Mais il y a les deux chez les sfaradim. Hein. Il y a les deux, mais la majorité aujourd'hui des sfaradim disent qu'on ne fait pas la bracha sur le talit Katan. On rend quitte le talit Katan avec le talit Gadol.
Il faut avoir une kavana.
Il faut avoir une kavana, pas forcément, puisque c'est dans notre subconscient. On sait que je mets le télé de katane, je vais faire la bracha dessus quand je mettrai le télé de gadol. Il n'y a pas besoin d'avoir de kavana. D'accord.